Chapitre 20. Hadjimurad vivait depuis une semaine dans la forteresse chez Ivan Matveyevitch. Bien que Marie Dmitrievna eût souvent à se fâcher contre le velu Kanefi, Hadjimurad n'avait amené avec lui que Kanefi et Eldar, et une fois même dû le chasser de la cuisine parce qu'il avait failli la tuer, elle nourrissait visiblement un sentiment particulier de respect et de sympathie pour Hadjimurad. Maintenant, ce n'était pas elle qui lui servait ses repas. Elle avait laissé ce soin à Eldar, mais elle profitait de chaque occasion pour le voir et lui rendre service. Elle prenait également une part très vive dans les pourparlers engagés au sujet de sa famille. Elle savait combien il avait de femmes, combien d'enfants et leur âge. Et chaque fois que Hadjimurad avait eu la visite d'un émissaire, elle l'interrogeait, comme elle pouvait, sur le résultat des pourparlers. Quant à Butler, pendant cette semaine, il s'était complètement lié d'amitié avec Hadjimurad. Parfois, Hadjimurad venait dans sa chambre, parfois c'était Butler qui allait chez lui. Parfois, ils causaient ensemble par l'intermédiaire d'un interprète, parfois ils s'entretenaient seuls par des signes, des gestes et surtout des sourires. Évidemment, Hadjimurad aimait Butler. Cela se voyait à la façon dont Eldar traitait Butler. Quand celui-ci entrait dans la chambre de Hadjimurad, Eldar allait à sa rencontre en montrant joyeusement ses dents brillantes et se dépêchait de mettre les coussins sur son siège. Puis il le débarrassait de son épée, s'il l'avait. Butler avait fait aussi la connaissance du velu Kanefi, le frère de sang de Hadjimurad, et s'était lié avec lui. Kanefi savait beaucoup de chansons montagnardes et les chantait très bien. Hadjimurad, pour faire plaisir à Butler, ordonnait à Kanefi de chanter les chansons qui lui plaisaient. Kanefi avait une voix de ténor très haute, et il chantait avec une netteté et une expression extraordinaire. Une des chansons qu'aimait particulièrement Hadjimurad avait frappé Butler par sa mélodie solennelle et triste. Butler demanda à l'interprète de lui en traduire les paroles. Il s'agissait dans cette chanson de la vengeance du sang, ce qui avait eu lieu entre Kanefi et Hadjimurad. Voici quelles étaient les paroles de cette chanson. La terre séchera sur ma tombe, et tu m'oublieras, ma mère. Le cimetière se couvrira d'herbe, et l'herbe étouffera ta douleur, mon vieux père. Les larmes sécheront dans les yeux de ma sœur. La douleur s'envolera de son cœur. Mais toi, mon frère aîné, tu ne m'oublieras pas tant que tu n'auras pas vengé ma mort. Tu ne m'oublieras pas non plus, mon second frère, tant que tu ne seras pas couché à mes côtés. Tu es chaude au bal et tu portes la mort. Mais n'étais-tu pas ma fidèle esclave? Tu es noire, ô terre, tu me couvriras. Mais ne t'ai-je point foulé avec mon cheval? Tu es froide, ô mort, mais je fus ton maître. C'est la terre qui prendra mon corps, c'est le ciel qui prendra mon âme. Hadjimurad écoutait toujours cette chanson les yeux fermés, et quand elle était terminée, après la longue note mourante de la fin, il disait toujours en russe « Bonne chanson, sage chanson ». La poésie de la vie particulière, énergique, des montagnards, depuis l'arrivée de Hadjimurad et son amitié avec lui et ses murides, enflammait Butler encore davantage. Il s'acheta un beshmet, une tcherkeska, des guêtres. Il lui semblait être lui-même un montagnard et vivre de la même vie que ses hommes. Le jour du départ de Hadjimurad, Ivan Matveyevitch réunit quelques officiers pour l'accompagner. Les officiers étaient assis, les uns à la table où Marie Dmitrievna servait le thé, les autres à une table chargée d'eau-de-vie, de vin, de victuailles. Hadjimurad, en costume de route, à pas rapide, doux, en boitant, entra dans la chambre. Tous se levèrent, et chacun à son tour lui serra la main et le salua. Ivan Matveyevitch l'invita à s'asseoir sur le divan, mais il remercia et s'assit sur une chaise près de la fenêtre. Le silence qui s'était fait à son entrée ne paraissait point le troubler. Il examina attentivement tous les visages et arrêta un regard indifférent sur la table avec le samovar et les victuailles. Un officier très gai, Petrovski, qui voyait Hadjimurad pour la première fois, lui demanda, par l'intermédiaire de l'interprète, si Tiflis lui avait plu. « Aya, dit-il. Il dit que oui, traduisit l'interprète. Qu'est-ce qui lui a plu ? » Haji Mourad répondit quelque chose. Ce qui lui avait plu surtout, c'était le théâtre. « Eh bien, et le bal chez le général commandant en chef ? Est-ce que cela lui a plu ?» Haji Mourad fronça les sourcils. « Chaque peuple a ses coutumes. Chez nous, les femmes ne s'habillent pas ainsi, » dit-il en regardant Marie Dmitrievna. « Qu'est-ce qui lui a déplu ?»« Nous avons un proverbe, » dit-il à l'interprète. « Le chien nourrissait l'imane avec de la viande, et l'imane nourrissait le chien avec du foin. Tous les deux avaient faim. » Il sourit. À chaque peuple, sa vie est bonne. Ensuite, la conversation tomba. Les officiers se mirent à boire du thé et à manger. Haji Mourad prit un verre de thé qu'on lui offrit et le posa devant lui. « Voulez-vous de la crème, du pain ?» dit Marie Dmitrievna en lui avançant l'un et l'autre. Haji Mourad inclina la tête. « Alors quoi ? Adieu !» dit Butler en lui touchant le genou. « Quand nous reverrons-nous » « Adieu, adieu !» dit en russe, en souriant, Haji Mourad. « Ami, je suis ton fidèle ami. Il est temps de partir, » dit-il ensuite, en secouant la tête dans la direction où il devait aller. À la porte de la chambre, parut Eldar, avec quelque chose de grand et de blanc sur son épaule, et un sabre à la main. Haji Mourad l'appela auprès de lui. Eldar s'approcha à grands pas, et lui remit le manteau blanc et le sabre. Haji Mourad se leva, prit le manteau et l'offrit à Marie Dmitrievna en disant quelque chose que l'interprète traduisit. « Tu as trouvé ce manteau joli, prends-le. » « Pourquoi cela ? » demanda Marie Dmitrievna en rougissant. « C'est ainsi, » répondit Haji Mourad. « Eh bien, je vous remercie, » dit Marie Dmitrievna en prenant le manteau. « Que Dieu vous aide à sauver votre fils, » ajouta-t-elle. « Oulen Takiyi, dites-lui que je lui souhaite de sauver son fils. » Haji Mourad regarda Marie Dmitrievna et hocha approbativement la tête. Ensuite, il prit des mains d'Eldar le sabre et le remit à Ivan Matveïevitch. Celui-ci prit le sabre et dit à l'interprète « Dis-lui qu'il prenne mon ongre bai, je n'ai que cela pour le remercier. » Haji Mourad agita la main devant son visage en signe qu'il n'avait besoin de rien et ne l'accepterait pas. Ensuite, montrant du geste la montagne et son cœur, il sortit. Presque tous le suivirent. Les officiers qui étaient restés dans la chambre aussitôt tirèrent le sabre du fourreau pour examiner l'acier, et ils décidèrent que c'était un vrai gourda. Butler accompagna Haji Mourad sur le perron. Mais ici, il se produisit quelque chose que personne n'attendait et qui eût pu se terminer par la mort de Haji Mourad s'il n'eût été aussi adroit. Les habitants de Naoul Koumitsk, Talkatchou, qui tenaient en grande estime Haji Mourad et plusieurs fois étaient venus à la forteresse uniquement pour voir le célèbre Naïb, 3 jours avant le départ de Haji Mourad, avaient envoyé chez lui des ambassadeurs pour le prier de se rendre le vendredi dans leur mosquée. Mais les princes de Koumitsk, qui demeuraient à Talkatchou, haïssaient Haji Mourad et avaient contre lui la vengeance du sang. Ayant appris cela, ils déclarèrent au peuple qu'ils ne permettraient pas à Haji Mourad de pénétrer dans la mosquée. Le peuple se révolta et une bagarre éclata entre le peuple et les partisans des princes. Les autorités russes étouffèrent la querelle des montagnards et envoyèrent à Haji Mourad l'ordre de ne pas aller dans la mosquée. Haji Mourad n'y alla point et l'affaire paraissait terminée. Mais au moment même du départ de Haji Mourad, comme il sortait sur le perron au bas duquel attendaient ses chevaux, le prince Koumitsk, Arelan Khan, que connaissaient Butler et Ivan Matveïevitch, parut devant la maison. Ayant aperçu Haji Mourad, il tira de sa ceinture un pistolet et le dirigea vers lui. Mais avant qu'il ait eu le temps de tirer, Haji Mourad, malgré sa claudication, bondissait du perron comme un chat et se jetait sur Arelan Khan. Celui-ci tira, mais n'atteignit point Haji Mourad. Alors Haji Mourad, saisissant d'une main la bride de son cheval, de l'autre lui arracha son poignard et cria quelque chose en tatar. Butler et Eldar, tous deux en même temps, accoururent vers les ennemis et leur saisirent les bras. Au bruit des coups, Ivan Matveïevitch sortit. « Qu'est-ce donc, Arelan ? Dans ma maison, tu commets une lâcheté pareille, » dit-il, ayant appris de quoi il s'agissait. « Ce n'est pas bien, mon cher. Dans les champs, faites ce que vous voudrez, » Mais ici, chez moi, organiser une tuerie pareille, ça, non. Arélan Khan, très petit, la moustache noire, tout pâle et tremblant, descendit de cheval, regarda avec colère Hadji Mourad et suivit Ivan Matveïevitch dans la maison. Hadji Mourad retourna près de ses chevaux en respirant lourdement et souriant. « Pourquoi a-t-il voulu te tuer ?» lui demanda Butler par l'interprète. « Il dit que chez eux, telle est la loi, » transmit l'interprète. Arélan doit se venger de lui pour le sang versé. Voilà pourquoi il voulait le tuer. « Et s'il le rattrape en route ?» demanda Butler. Hadji Mourad sourit. « Eh bien, s'il me tue, c'est la volonté d'Allah. Allons, adieu, » dit-il de nouveau en russe, et, saisissant le toupet de son cheval, il embrassa du regard tous ceux qui l'accompagnaient et rencontra avec tendresse le regard de Marie Dmitrievna. « Adieu, merci, » lui dit-il, « merci. » « Que Dieu vous aide à sauver votre famille, » lui répéta Marie Dmitrievna. Il ne comprit pas les mots, mais il comprit sa sympathie pour lui et lui fit un signe de tête. « N'oublie pas ton ami, » dit Butler. « Dis-lui que je suis un ami fidèle, que je ne l'oublierai jamais, » répondit-il par l'interprète. Et malgré sa jambe boiteuse, à peine eut-il touché du pied l'étrier qu'il sauta rapidement et légèrement sur sa monture et s'installa sur la haute selle en tâtant d'un geste habituel son pistolet et arrangeant son sabre. Puis il s'éloigna de la demeure d'Ivan Matveïevitch de cette allure fière particulière aux montagnards à cheval. Kanefi et Eldar montèrent aussi sur leurs chevaux, et après avoir amicalement pris congé de leurs hôtes et des officiers, au trot ils suivirent leur chef. Comme il arrive toujours, on se mit à parler de celui qui partait. Quel brave gaillard! Il s'est jeté comme un loup sur Arélan Khan. Son visage s'est transfiguré. Il nous trompera. « Ce doit être une grande canaille, » dit Petrovski. « Dieu fasse qu'il y ait beaucoup de pareilles canailles parmi les Russes, » intervint tout à coup avec humeur Marie Dmitrievna. « Il a vécu chez nous une semaine, et nous n'avons vu de lui rien que de bon, » dit-elle. « Délicat, intelligent, juste. Mais d'où savez-vous cela ?»« J'ai pu en juger. »« Elle est amoureuse de lui, » dit Ivan Matveïevitch qui rentrait. « Ça, c'est sûr. Amoureuse ?» « Eh bien, qu'est-ce que cela vous fait? Seulement, pourquoi dire du mal d'un brave homme? Il est tatar, mais tout de même un brave homme. »« C'est vrai, Marie Dmitrievna, » dit Butler. « Bravo de l'avoir défendu. » Chapitre 21. La vie des habitants des forteresses d'avant-garde sur la ligne de la Tchétchnia allait son train. Depuis, il y avait eu deux attaques et des miliciens et des compagnies de soldats avaient marché contre les montagnards. Mais la deuxième fois, ceux-ci s'étaient enfuis sans qu'on ait pu les joindre, et arrivés à Vostvijenskaya, ils avaient volé 8 chevaux des Cosaques, après avoir tué le Cosaque qui les conduisait à l'abreuvoir. Depuis que la houle avait été ruinée, il n'y avait pas eu d'incursion, mais on s'attendait à une grande expédition à la Grande Tchétchnia, par suite de la nomination comme nouveau chef du flanc gauche du prince Bariatinsky. Dès que celui-ci, ami du général-gouverneur, ancien commandant du régiment de Kabardine, fut nommé chef du flanc gauche et arrivé à Groznaya, il réunit un détachement afin de suivre les mesures prescrites par l'empereur et que Tchernychev avait transmises à Vorontsov. Le détachement, réuni à Vostvijenskaya, en sortit dans la direction de Verkhourinsk, où les troupes coupaient du bois. Le jeune Vorontsov avait là une magnifique tente de drap et sa femme, Marie Vassilievna, souvent venait au camp et y couchait. Les relations de Marie Vassilievna avec Bariatinsky n'étaient un secret pour personne. C'est pourquoi les officiers qui n'étaient pas de l'entourage immédiat et les soldats, entre eux, l'injuriaient grossièrement parce que, à cause de sa présence dans le camp, on les envoyait la nuit au guet. Ordinairement, les montagnards avançaient des canons et lançaient des obus dans le camp. Dans la plupart des cas, ces obus n'atteignaient pas leur but. Aussi, en temps ordinaire, ne prenait-on aucune mesure contre ces attaques. Mais pour que les montagnards ne pussent tirer et effrayer ainsi Marie Vassilievna, on envoyait le guet. Et aller chaque nuit au guet pour que madame ne soit pas effrayée, c'était offensant et révoltant. Et les soldats et les officiers qui n'étaient pas reçus dans la haute société injuriait sans se gêner Marie Vassilievna. Hutler, pour voir des camarades du corps des pages, ainsi que d'anciens camarades de régiment qui servaient dans le régiment de Kourinsk et les aides de camp qu'il connaissait, de la forteresse se rendit un jour au camp. Tout de suite, il se sentit très gai. Il s'installa dans la tente de Poltoratsky et retrouva beaucoup de connaissances qui l'accueillirent avec joie. Il alla voir aussi Vorontsov, qu'il connaissait un peu, parce que, à un moment donné, tous deux avaient servi dans le même régiment. Vorontsov reçut Butler très amicalement, le présenta au prince Bariatinsky, et celui-ci l'invita au dîner d'adieu qu'il donnait à l'ancien chef du flanc gauche, son prédécesseur, le général Kozlovski. Le dîner était splendide. On avait amené et installé une série de tentes, et sur toute leur longueur était disposée une table magnifiquement dressée. Tout rappelait la vie de la garde à Saint-Pétersbourg. À 2 heures, on se mit à table. Au milieu était assis, d'un côté Kozlovski et en face Bariatinsky. Kozlovski avait à sa droite Vorontsov, à sa gauche la femme de Vorontsov. Tout le long, de chaque côté, avaient pris place les officiers du régiment de Kabardine et de Kourinsk. Butler était assis à côté de Poltoratsky. Tous deux bavardaient gaiement et buvaient avec leurs voisins. Quand on arriva au rôti, les ordonnances commencèrent à verser le champagne. Poltoratsky, avec une véritable crainte et avec pitié, dit alors à Butler « Notre Kozlovski ne va pas pouvoir s'en tirer. »« Quoi ? Il doit faire un discours. Et que peut-il dire ?»« Oui, mon cher, ce n'est pas la même chose que de prendre un retranchement sous les balles. » Et encore, à côté de lui, une dame et ces messieurs de la cour. Vraiment, ça fait pitié de le voir, se disaient entre eux les officiers. Le moment solennel était arrivé. Bariatinsky se leva, prit sa coupe et, s'adressant à Kozlovski, prononça un bref discours. Quand il eut achevé, Kozlovski se leva et, d'une voix bégayante, sourde, commença. « Par la volonté de Sa Majesté, je m'en vais. Je me sépare de vous, messieurs les officiers. Mais regardez-moi toujours comme étant des vôtres. Vous, messieurs les officiers, vous connaissez cette vérité. Qu'un seul soldat ne fait pas une armée. C'est pourquoi, de tout ce par quoi j'ai été récompensé dans mon service, de tout ce dont m'a gratifié la bienveillance de Sa Majesté, de toute ma situation, ainsi que mon bon renom, de tout, absolument de tout, ici sa voix trembla, je vous suis redevable, et suis redevable à vous seul, mes amis. Et le visage ridé se crispa encore davantage. Un sanglot monta dans sa gorge, et des larmes parurent dans ses yeux. De tout mon cœur, je vous apporte ma reconnaissance la plus sincère et la plus cordiale. Kozlovski, incapable de prononcer un mot de plus, se mit à embrasser les officiers. La princesse se cacha le visage dans son mouchoir. Le prince Semyon Mikhailovitch, la bouche crispée, clignotait des yeux. Plusieurs des officiers avaient les yeux humides. Butler, qui cependant connaissait très peu Kozlovski, ne pouvait non plus retenir ses larmes. Tout cela lui plaisait énormément. Ensuite commencèrent les toasts pour Bariatinsky, pour Vorontsov, pour les officiers, pour les soldats. Et les officiers sortirent de ce dîner, animés par le vin et par l'enthousiasme militaire auquel ils étaient particulièrement disposés. Le temps était merveilleux, doux, ensoleillé. L'air frais, vivifiant. De tous les côtés craquaient les bûchers, retentissaient les chansons. Il semblait que tous fêtaient quelque chose. Butler, l'esprit dispos, un peu attendri, alla dans la tente de Poltoratsky. Quelques officiers s'y étant réunis, on dressa une table pour le jeu et l'aide de camp mit en banque 100 roubles. 2 fois, Butler sortit de la tente, tenant la main sur sa bourse dans la poche de son pantalon. Mais à la fin, il n'y put tenir, et malgré la parole qu'il s'était donnée, et avait donnée à ses frères, de ne pas jouer, il se mit à ponter. Moins d'une heure après, Butler, tout rouge, en sueur, son uniforme taché de craie, était assis, les 2 bras appuyés sur la table, et sur une carte froissée, marquait les chiffres de ses mises. Il avait tant perdu qu'il avait peur de compter. Du reste, sans compter, il savait qu'il avait perdu tous les appointements qu'il pouvait toucher d'avance, et que même en y ajoutant le prix de son cheval, il ne pourrait payer les sommes qu'avait inscrites, d'après lui, l'aide de camp qu'il ne connaissait pas. Il aurait continué à jouer, mais l'aide de camp, le visage sévère, avait déposé les cartes et s'était mis à compter la colonne des chiffres de Butler. Butler, confus, demanda de l'excuser s'il ne pouvait payer sur le champ ce qu'il avait perdu, et dit qu'il l'enverrait de la maison. Mais comme il disait cela, il remarqua que tous avaient pitié de lui, et que tous, même Poltoratsky, évitaient son regard. C'était sa dernière soirée. Il aurait mieux valu ne pas jouer, aller chez Vorontsov, qui l'avait invité, et tout eût été parfait, pensait-il. Et maintenant, non seulement ce n'était pas parfait, c'était épouvantable. Ayant dit adieu à ses camarades et à ses connaissances, il partit chez lui. Aussitôt arrivé, il se coucha et dormit 18 heures de suite, comme on dort ordinairement après qu'on a perdu aux cartes. Marie Dmitrievna, à qui il avait demandé de lui prêter 50 kopecks pour le pourboire du cosaque qui l'avait accompagné, comprit, à sa mine triste et à ses réponses brèves, qu'il avait perdu, et elle reprocha à Ivan Matveïevitch de l'avoir laissé partir. Le lendemain, Butler s'éveilla à midi, et, se rappelant sa situation, il voulut se replonger dans l'oreiller qu'il venait de quitter. Mais cela n'était pas possible. Il fallait prendre des mesures pour trouver les 470 roubles qu'il devait à un inconnu. En fait de mesures, d'abord il écrivit à son frère, en se repentant de sa faute et le suppliant de lui envoyer pour la dernière fois 500 roubles sur le compte de ce moulin qui restait encore en propriété indivise. Ensuite, il écrivit à une parente, très avare, en lui demandant de lui prêter, à n'importe quel taux, les mêmes 500 roubles. Ensuite, il alla trouver Ivan Matveïevitch, sachant que lui, ou plutôt Marie Dmitrievna, avait de l'argent, et lui demanda de lui prêter 500 roubles. « Ma foi, je les donnerai bien tout de suite, » dit Ivan Matveïevitch, « mais Marie ne les donnera pas. Ces sacrées femmes sont si serrées. » Et il faut pourtant trouver une solution, que diable! On pourrait essayer chez ce satané cantinier. Mais chez le cantinier, il n'y avait pas à essayer de faire l'emprunt. De sorte que le salut de Butler ne pouvait venir que du frère ou de la parente avare. Chapitre 22. N'ayant pas atteint son but à la Tchétchnia, Hadji Mourad retourna à Tiflis, où chaque jour il venait chez Vorontsov et le suppliait, quand celui-ci le recevait, de réunir les prisonniers et de les échanger contre sa famille. Il répétait que sans cela il était lié et ne pouvait, comme il le désirait, servir les Russes et anéantir Chamil. Vorontsov promettait vaguement de faire tout ce qu'il pourrait, mais remettait de jour en jour, disant qu'il prendrait une décision aussitôt l'arrivée à Tiflis du général Argoutinsky, avec lequel il en causerait. Voyant cela, Hadji Mourad demanda à Vorontsov l'autorisation de vivre pour un certain temps à Nouka, petite ville de la Transcaucasie, où il pensait avoir plus de facilité pour continuer les pourparlers avec Chamil et avec les gens dévoués à lui et à sa famille. En outre, à Nouka, ville musulmane, il y avait une mosquée, et il pourrait plus commodément accomplir tous les rites exigés par la loi musulmane. Vorontsov écrivit à ce sujet à Pétersbourg, et, en attendant la réponse, il prit sur lui d'autoriser Hadji Mourad à séjourner à Nouka. Pour Vorontsov, pour les autorités de Pétersbourg, ainsi que pour la majorité des Russes qui connaissaient l'histoire de Hadji Mourad, cet événement paraissait une circonstance heureuse dans la guerre du Caucase, ou tout simplement un cas intéressant. Mais pour Hadji Mourad, les derniers temps surtout, un terrible tournant de sa vie. Il s'était enfui des montagnes, d'une part pour sauver sa vie, d'autre part par haine pour Chamil. Quelques difficultés qu'ait présenté cette fuite, il était parvenu à l'opérer, et les premiers temps, il se réjouissait de ce résultat et méditait un plan pour attaquer Chamil. Mais il résultait que le salut de sa famille, qu'il croyait facile à réaliser, présentait des difficultés qu'il n'avait pas soupçonnées. Chamil s'était saisi de sa famille, la tenait en captivité, et menaçait d'envoyer les femmes en différents aouls, et de crever les yeux de son fils, ou de le tuer. Maintenant, Hadji Mourad allait à Nouka, avec l'intention d'essayer, avec l'aide de ses partisans du Daghestan, d'arracher sa famille, par ruse ou par force, des mains de Chamil. Les derniers émissaires qu'il reçut à Nouka lui apprirent que les Abbas, qui lui étaient dévoués, se préparaient à enlever sa famille et à la conduire chez les Russes, mais comme ils étaient trop peu nombreux pour cette entreprise, ils ne pouvaient la risquer tant que la famille de Hadji Mourad serait en captivité à Véden. Ils attendraient pour cela que la famille fût transportée à un autre endroit. Alors, pendant la route, ils promettaient de le faire. Hadji Mourad ordonna de dire à ses amis qu'il y aurait 3 000 roubles pour celui qui sauverait sa famille. À Nouka, on logea Hadji Mourad dans une petite maison de 5 pièces, située non loin de la mosquée et des palais du Khan. Dans sa maison demeuraient aussi les officiers attachés à sa personne, l'interprète et ses serviteurs. La vie de Hadji Mourad se passait dans l'attente et la réception des émissaires montagnards et en promenades à cheval qu'il avait été autorisé à faire dans les environs. Le 8 avril, en rentrant de la promenade, Hadji Mourad apprit qu'en son absence était arrivé de Tiflis un fonctionnaire de la part de Vorontsov. Malgré tout son désir de savoir quelles nouvelles lui apportait le fonctionnaire, Hadji Mourad, avant d'aller dans la chambre où celui-ci l'attendait en compagnie du commissaire de police, se rendit chez lui et fit sa prière de midi. Sa prière faite, il alla dans la pièce qui servait de salon et de salle de réception. Le fonctionnaire qui venait de Tiflis, le conseiller d'État Kirillov, transmit à Hadji Mourad le désir de Vorontsov qu'il soit revenu pour le 12 à Tiflis afin d'avoir une entrevue avec le général Argoutinsky. « Yakshi !» dit avec humeur Hadji Mourad. Le fonctionnaire Kirillov lui déplaisait. « Et l'argent, l'as-tu apporté ?»«
Oui, je l'ai apporté, » répondit Kirillov.
« Maintenant, c'est pour 2 semaines, » dit Hadji Mourad en montrant 10 doigts, puis 4. « Donne !»
Tout de suite, dit le fonctionnaire en prenant une bourse dans sa sacoche.
« Et pourquoi diable lui faut-il de l'argent ?» dit-il en russe, pensant que Hadji Mourad ne comprenait pas. Mais Hadji Mourad avait compris, et il regarda Kirillov avec colère. En sortant l'argent, celui-ci, qui désirait causer avec Hadji Mourad, afin de savoir ce qu'à son retour il devait dire au prince Vorontsov, lui demanda par l'interprète s'il ne s'ennuyait pas ici. Hadji Mourad regarda de côté, avec mépris, le gros petit homme, en civil et sans armes, et ne répondit rien. L'interprète répéta la question. « Dis-lui que je n'ai pas à lui parler, qu'il donne l'argent. » Puis, ayant dit cela, Hadji Mourad s'assit devant la table, se préparant à compter l'argent. Quand Kirillov eut sorti de la bourse les pièces d'or, qu'il disposa en 7 petites piles de chacune 10 pièces, Hadji Mourad recevait 5 pièces d'or par jour, il les avança vers Hadji Mourad. Celui-ci fit glisser l'or dans la manche de sa tcherkesska, se leva, et geste tout à fait inattendu, il donna un petit coup sur le crâne chauve du conseiller d'État, puis sortit de la chambre. Le conseiller d'État bondit et ordonna à l'interprète de dire qu'il n'ose pas se permettre cela, car il avait un grade qui correspondait à celui de colonel. Le commissaire de police confirma cette observation, mais Hadji Mourad fit signe de la tête qu'il le savait et sortit. Que faire avec un homme pareil ? Dit le commissaire de police. Il te plongerait le poignard dans le dos, et voilà tout, avec ces diables, on ne peut pas parler. J'ai vu qu'il commençait à se fâcher. À la nuit arrivèrent 2 émissaires montagnards, couverts jusqu'aux yeux de leur bachalik. Le commissaire de police les conduisit dans la chambre de Hadji Mourad. Un des émissaires était un tavlin, gras, noir. L'autre un vieillard très maigre. La nouvelle qu'ils apportaient n'était pas joyeuse pour Hadji Mourad. Les amis qui avaient voulu se charger de sauver la famille, maintenant y renonçaient par peur de Chamil, qui menaçait des supplices les plus épouvantables tous ceux qui viendraient en aide à Hadji Mourad. Après avoir écouté le récit des émissaires, Hadji Mourad, les bras accoudés sur ses jambes croisées, la tête coiffée du bonnet, inclinée, demeura longtemps silencieux. Hadji Mourad pensait. Et pensait résolument. Il savait qu'il réfléchissait maintenant pour la dernière fois et qu'une solution était nécessaire. Hadji Mourad releva la tête, puis prenant 2 pièces d'or, en donna une à chacun des émissaires et leur dit « Allez !» Quelle sera la réponse ? La réponse sera celle que Dieu enverra. Allez !
Les émissaires se levèrent et partirent. Hadji Mourad resta assis sur le tapis, les coudes appuyés sur les genoux. Il resta ainsi longtemps. Il se demandait ce qu'il fallait faire. Croire Jamil et retourner chez lui, c'est un renard. Il trompera. Et si même il ne trompe pas, on ne peut pas se soumettre à lui, à ce menteur roux. Cela est impossible, car après que je suis venu chez les Russes, il ne se fiera pas à moi, pensait Hadji Mourad. Et il se rappela ce conte Tavlin. Un faucon ayant été capturé vécut quelque temps chez les hommes. Ensuite, il retourna à la montagne chez les siens. Mais il portait aux pattes des entraves auxquelles étaient attachés des grelots. Et les faucons ne voulurent point l'accueillir. « Va-t'en là-bas où l'on t'a mis des grelots d'argent. Nous n'avons pas de grelots, nous n'avons pas d'entraves. » Le faucon ne voulait pas quitter ses parents et resta. Mais les autres faucons s'obstinaient à ne pas vouloir de lui et ils le tuèrent à coups de bec. « Ils me tueront aussi, » pensa Hadji Mourad. Rester ainsi, soumettre au tsar russe le Caucase, mériter la gloire, les honneurs, la richesse. « Cela est possible, » pensa-t-il, se rappelant ses entretiens avec Vorontsov et les paroles flatteuses du prince. « Mais il faut prendre une résolution immédiate, sans quoi il fera périr ma famille. » Hadji Mourad ne dormit pas de la nuit. Il réfléchissait.